Nous vivons une époque formidable.
Quoique.
Bienvenue dans les matinales de Bartas.
À partir de 8h30.
Quoique.
Le lundi, le mercredi.
Beaucoup de local.
Et puis, un peu d'autre chose.
Les matinales de Bartas.
En direct.
Sur le 107 FM.
J'ai retrouvé mes lunettes.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Bartas, bienvenue sur le 107, il est 8h30 et quelques secondes, voilà, c'est comme ça, ça arrive, on est un peu roots ce matin, mais bon, voilà. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 5 mai, il est 8h30, c'est une flèche, mais espérons qu'ils ne prennent jamais le mur du son à la technique avec nous, Corto, salut.
Et bien le bonjour, même.
Au programme de cette matinale, nous serons dans un instant avec l'équipe de Biojour, l'épicerie bio passe en scope, on en parle avec elle toutes dans un instant. Et puis on repasse un reportage de Cléo qui avait suivi pendant une semaine en juillet 2019 à Vébron des cours de self-défense avec Monique Vénère qui a 83 ans, grande figure du judo et de l'aïkido. Un petit retour sur ce stage, ce sera tout à l'heure. Il y aura de la musique comme d'hab, on se pose, on est tranquille et on commence par l'édito.
On peut être en désaccord, mais enfin vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là,
ce n'est que l'édito des Bartas. On part en Belgique et c'est un truc que j'avais vu sur France TV Info et puis je suis allé fouiller un peu sur le site de la RTBF, etc. Et en Belgique, la découverte wallonne est majeure au niveau environnemental. Trois produits performants et biologiques ont été développés par des chercheurs de Jean Blou, agrobiotech de l'université de Liège, pour remplacer le glyphosate à destination des particuliers et des agriculteurs. Il s'agit de solutions à base d'huiles essentielles fortement diluées mais qui restent efficaces pour tuer les mauvaises herbes. Bonne nouvelle quand même. Alors il y a un financement de 6 millions d'euros qui doit leur permettre d'introduire une demande d'homologation auprès des autorités européennes. Le chemin devrait encore durer un peu plus de 4 ans et ouvrir la voie à la commercialisation de cet herbicide très faiblement toxique mis au point par ces chercheurs wallons. 16 heures après l'application du biopesticide, les plantes meurent. Mais il est conseillé de répandre le produit deux fois pour éviter les repousses. Dans une DCR du campus Jean Bloutois, le chercheur Simon Dalmazo nous montre comment cela fonctionne. À chaque fois, le principe est de mettre deux bacs de plantes l'un à côté de l'autre. D'un côté, il y a du plantain bien vert et de l'autre, il y a du plantain mort. Et ils ont répandu le produit à base de produits naturels sur les pousses. L'objectif de cet herbicide bio, c'est qu'il tue les mauvaises herbes et qu'il se substitue aux produits phytosanitaires chimiques, dont le glyphosate. Pour arriver à ce résultat, des années de labeur ont été nécessaires en laboratoire. Et comme souvent dans le domaine scientifique, cette découverte a bénéficié d'un coup de pouce du destin. Et oui, on a toujours eu le souci de développer des méthodes alternatives aux pesticides chimiques. Et quand on a commencé les recherches en 2010 sur les huiles essentielles, on n'avait pas anticipé que le glyphosate allait poser problème des années plus tard. Et il se fait que fortuitement, nous sommes prêts. C'est ce qu'explique Aïssam Jidjakli, qui est professeur en phytopathologie et en agriculture urbaine à la faculté de Jean Blou de l'université de Liège. Mais c'est surtout pour l'agriculture que cette alternative au glyphosate constitue une petite révolution, car le produit sera bientôt banni dans l'Union européenne. Du côté de la Fédération wallonne de l'agriculture, la nouvelle est bien accueillie, même si on émet trois réserves. Je cite, c'est une recherche et une découverte wallonne, donc on est plutôt enthousiaste à ce type d'alternative au glyphosate, car la tendance est à la diminution des intrants chimiques, mais il faudra voir lorsqu'on passera à la commercialisation, ce qu'il en est du prix du produit, de son utilisation qui devra pouvoir se réaliser avec les pulvérisateurs et de la toxicité de cette substance. Je vais y arriver. C'est ce qu'explique José Renard, secrétaire général du syndicat agricole à la RTBF. La réponse des chercheurs Jean Bloutois est claire. Ces critères ont été pris en compte et ce, dès la genèse de cette recherche. L'huile essentielle coûte relativement cher, mais nous avons développé une substance biologique avec de l'huile hautement diluée et toujours... mais qui a toujours des propriétés actives. Le coût final est désormais bas et permettra d'être concurrentiel face au glyphosate. Quant à la toxicité, elle est nulle selon les scientifiques Jean Bloutois. Ces huiles essentielles sont déjà utilisées dans le secteur de la médecine, donc nous n'avons pas de crainte quant à d'éventuelles contaminations de ces produits à la faune et à la flore. C'est ce que conclut Aïssam Jidjakli. Une levée de fonds est en cours et un spin-off sera créé en fin d'année. Prochaine étape, ces herbicides naturels devront être homologués avant d'être commercialisés. Ils sont forts, ces Belges. Je les adore. Je sais pas pourquoi. Allez, on se retrouve dans un instant avec l'équipe de Biojour. On écoute d'abord Ben Harper. Le morceau, c'est Excuse Me, Mister.
Mmh.
C'est avec plaisir que nous accueillons ce matin l'équipe de Biojour, Marine, Magali, Sandrine et Julia. Bonjour à toutes les quatre.
Salut.
Bonjour.
Bonjour l'équipe de Radio Bartas.
C'est officiel. Biojour passe en scope. Alors c'est bien de ça dont on va parler. On va d'abord retracer un peu l'aventure de Biojour qui a commencé en 2003. D'où est partie l'idée? Comment ça a commencé il y a 18 ans maintenant?
Eh bien, on était rémistes. On était deux, Charlotte et moi, on consommait bio et il y avait une petite boutique sur Florac qui s'appelait Les Claderies, associative, dans laquelle j'étais un peu bénévole, qui s'est arrêtée et on s'est dit tiens, on va commencer à vendre des produits bio. Au début, peut-être je vais me gourer, hein. J'ai pas une super mémoire. Au début, on était bénévoles toutes les deux pour une asso qui s'appelait Corse, qui était sur le Mont-Lozère et qui délivrait des produits du commerce équitable, donc de d'ailleurs, pas d'ici. Et puis on a commencé avec, on était bénévoles, mais à chaque fois ils nous donnaient une petite partie de ce qu'on vendait. On avait le droit de garder un petit pourcentage d'argent pour nous, donc qu'on mettait de côté consciencieusement. Et on a commencé à acheter des produits bio avec cette somme d'argent. Et au début, on avait quoi, 300 euros. On a acheté 300 euros de produits bio et en vrac, qu'on réensachait et qu'on vendait. On vendait au CEP à l'époque, ça s'appelait le CEP, l'ancien Supagro, et on vendait sur le marché de Florac. Donc voilà, et l'asso s'est créée avec plein de gens qui nous ont soutenus, qui sont encore là aujourd'hui. Je vais peut-être pas en citer parce que j'ai peur du coup
d'en oublier.
Mais voilà, et on était une vingtaine à la création et plein de gens voilà qui disaient ouais, il faut vraiment qu'il y ait une boutique bio sur Florac, et puis c'est parti comme ça. Et puis après il y a eu voilà, plein de bénévoles, les créations de postes.
Que de chemin parcouru, voilà. C'est sûr. Toi, Sandrine, t'as rejoint quand l'aventure Biojour?
Alors, moi, j'ai été adhérente en 2004. Après, j'ai été bénévole pendant un an, de 2005 à 2006, il me semble, ou 2006 à 2007, je sais plus. Et j'étais salariée, oui, en 2006. J'étais salariée en 2006 sur un programme plus de développement local, où mon travail au début avait été de fédérer tout un réseau de producteurs locaux à 20 kilomètres à la ronde, 20-30 kilomètres à la ronde, pour fournir des produits frais du maraîchage à Biojour. Et ensuite, on a essayé d'impliquer la restauration collective et d'impliquer les cantines dans ce projet-là. On a fait aussi de la vente par panier. Donc toutes les semaines, voilà, les adhérents de Peugeot pouvaient retirer un panier de produits frais des producteurs locaux. Donc ça, c'était mon travail au départ à Peugeot.
Et Magali, même question.
Eh bien, moi, je suis arrivée à Peugeot fin 2009.
Ouais, ça fait 12 ans, ça, 12-13 ans.
Ça fait 2021, ouais, 12 ans, on va dire, puisque c'était fin 2009, ouais.
Et Julia, t'es la Benjamine de l'équipe.
Ouais, exactement. Moi, je suis arrivée pour faire un emploi saisonnier en juin 2018. Voilà, qui s'est ensuite perduré. Mmh. Voilà.
Et maintenant, la création d'une scope, on va en parler. Soyons clairs, vous avez jamais autant bossé que depuis l'année qui vient de s'écouler.
Bon, on fait que bosser depuis depuis toutes ces années.
C'est vrai.
C'est juste qu'on est plus nombreux, alors ça se voit plus. Ça fait une base de travail plus importante, mais qu'on se dispatche à plus nombreux.
Mais c'est vrai que ça, c'est génial, hein, puisque ça veut dire que les gens s'attachent de plus en plus à consommer bio et à consommer local.
C'est une réalité, oui, et c'est très bien. C'est bien que de plus en plus de gens viennent, enfin consomment bio déjà, et puis viennent à Biojour aussi, qui est quand même une petite boutique locale, et qui grandit année après année. Après, effectivement, il y a beaucoup de monde, et parfois c'est un peu difficile, on se demande ce que ça va donner par la suite.
Je suis sûr que ça va donner du bon, en tout cas. Comment vous bossez? Comment vous choisissez, par exemple, Marilyn, les producteurs avec qui vous bossez?
Ah, alors, après, il y a Magali qui enchaînera, parce que c'est Magali qui travaille plutôt avec les producteurs. Moi, je m'occupe juste des maraîchers. Et les maraîchers, en l'occurrence, comment on les choisit? Il y en a pas beaucoup, hein, déjà. Donc, les premiers, on les connaissait, ce sont des gens du coin, particulièrement le plus près. Bon, on les choisit déjà parce qu'ils travaillent en bio. Ou en Nature et Progrès, on les choisit parce qu'ils peuvent nous fournir en conséquence quand même. Et puis c'est pas comme comme Sandrine elle parlait de du projet qu'elle avait mené avec les paniers. Il y avait plein de petits producteurs un peu partout, presque même des gros jardiniers des fois. Donc là on travaille plus avec des producteurs un peu plus conséquents. Et il y en a 4. On s'organise à l'année, on fait une réunion à l'année en fin d'année vers novembre-décembre. On se fixe à peu près un calendrier sur qui fait quoi, quelle production, à peu près à quel moment, en quelle quantité sur l'année. Et puis on s'entend un peu sur les prix. Enfin, rien n'est non plus très figé, hein, toujours moyen de rediscuter. Mais ça donne une base et puis après, on enquille l'année. Mais c'est difficile à dire choisir. Parce qu'on n'a pas un grand choix non plus.
C'est sûr. Ouais. Ah oui, le territoire est assez escarpé. Donc, ouais. J'ai reçu des maraîchers ici. Ouais. Pas toujours facile pour eux de bosser.
Non.
Tu veux compléter, Magali?
En ce qui concerne les producteurs en tant que tels, la plupart viennent nous voir en fait pour proposer leurs produits. On discute avec eux, on leur demande comment ils travaillent, bien évidemment. Alors nous, à Biojour, nous n'attendons pas que tous les producteurs aient le label AB. En fait, c'est pas ce qui nous intéresse le plus, même si c'est important, effectivement. Ce qui est important pour nous, c'est que les producteurs travaillent au naturel, avec des produits locaux. Ça veut dire avec des produits qu'on retrouve sur le territoire de la Lozère, en fait. Alors, pour travailler avec des producteurs, en fait, on a délimité une distance, parce que si on s'arrêtait, par exemple, à 10 km autour de Florac, eh ben, on n'aurait pas grand monde, en fait.
Alors, le premier choix, ça a été d'être une association. Là, ça y est, vous passez en scope et on va en reparler. Mais lâcher le statut d'asso, c'est pourquoi? C'est parce que c'était limité?
Alors, c'est pas parce que c'est limité, c'est que, en fait, Biojour devient de plus en plus gros. Et il est assez compliqué de trouver des administrateurs qui s'engagent et c'est un peu aussi comment dire c'est un peu complexe de mettre la responsabilité de ce magasin associatif sur les épaules de quelques administrateurs. Et dans les faits, ce sont les salariés qui gèrent la boutique en réalité. Donc on avait envie de se diriger vers un statut qui correspond plus à ce que nous faisons tous les jours.
Transition parfaite. Pour ceux et celles qui ne sauraient pas ce que c'est quoi une SCOP tout simplement?
Alors une SCOP, c'est une société coopérative de production, c'est une société qui est, appartient à ses salariés. Donc les salariés, donc là on va être au nombre de 4 au début, sont coopérateurs et gèrent tout ce qu'il y a à gérer dans une petite entreprise. Mmh. Mais ne sont pas propriétaires. C'est-à-dire que ça pourra se transmettre l'association va mettre à disposition, en fait, va se transformer en SCOP et mettre à disposition l'outil de travail à ses salariés. Donc au fur et à mesure que des salariés vont entrer à Biojour, ils vont s'approprier l'outil de travail.
Mmh. Et alors pour ceux et celles qui s'intéresseraient, c'est quoi, comment on change de statut comme ça? C'est un dossier, c'est...
Oui, c'est un dossier, c'est possible dans la loi. Une association a le droit de se transformer en SCOP, à condition que ça soit écrit dans ses statuts. Donc nous, on a dû faire voter en Assemblée Générale un article supplémentaire dans nos statuts qui nous permettra de nous transformer en SCOP. Et là, pour ce faire, nous, on a choisi de se faire accompagner par l'URSCOP, qui est l'Union Régionale des SCOP Occitanie. Donc on a un accompagnement là pendant, enfin jusqu'à ce qu'on passe en SCOP, de professionnels qui nous aident sur les différentes étapes à franchir.
Julia, t'as rejoint la... Je te réveille, c'est pas grave. Ça va aller.
je ne dors pas, j'écoute religieusement Sandrine.
Comme je disais tout à l'heure, t'es la plus jeune, donc tu rentres dans cette SCOP aussi. Et est-ce que ça fait peur ou est-ce qu'au contraire ça ouvre des perspectives intéressantes?
Alors je dirais pas du tout que ça fait peur. En fait, pour moi, c'est un peu une évolution normale et naturelle. Et au contraire, je trouve ça plutôt excitant et joyeux, et j'ai plutôt l'impression d'être chanceuse de participer à ça. Et c'est vrai que de toute façon, je pense qu'on n'aurait pas trop pu continuer en association comme c'était. Donc en fait, je trouve que c'est très naturel, quoi. Voilà.
Ouais, faut dire que ce projet était dans les cartons depuis un moment. Et en 2019, je crois, si mes souvenirs sont exacts, vous avez changé de boutique. Hein, vous êtes maintenant à avenue Jean Monestier. C'est revenu. C'est à ce moment-là que vraiment vous vous êtes redit que la SCOP allait venir.
On a déménagé en 2018. Ouais.
2018.
Et en fait, ouais, c'est dans les cartons depuis 7-8 ans presque, hein. 10 ans peut-être même. Enfin, ça fait 10 ans que c'est dans les cartons. On était enceinte avec Sandrine à l'époque, et finalement c'est retombé dans les oubliettes. Enfin, pas vraiment dans les oubliettes, dans la cave, quoi. Mmh. Et c'est remonté parce que oui, le fait de changer de boutique, ça a fait quand même exploser le chiffre d'affaires. Donc c'est comme dit Sandrine, quoi, cette masse, cette responsabilité que peuvent porter des bénévoles qui finalement ne s'occupent de rien dans la gestion du quotidien de la boutique, ça peut faire peur. Et puis on avait vraiment de grandes difficultés à trouver du monde maintenant. Donc en fait, à un moment donné, je sais plus exactement comment ça s'est fait, moi avec ma mémoire de poisson rouge.
Je pense que c'était à la suite du DLA.
Ah oui, c'est ça, alors, a fait un DLA.
Mais c'est quoi un DLA?
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Dispositif local d'accompagnement.
Génial.
Oups, c'est lui d'un coup. Waouh.
Pas si poisson rouge que
ah
ça,
oui, dis donc.
Hein.
Je ne savais même pas que c'était encore là. Et oui, on nous avait proposé ça. C'était un accompagnement proposé par je ne sais plus qui. Bon, bref. C'était gratuit. On l'a fait. Et c'est vrai qu'on a eu une super accompagnante. Hein.
C'était au sortir de l'été, justement, 2018, après le déménagement, quoi, qu'on a fait ce DLA.
Oui, parce que c'était le bazar quand même. On était quand même perturbés par cette hausse d'activité. Fallait qu'on se réorganise, qu'on rembauche, qu'on... Et on a eu une super accompagnante qui nous a quand même bien boosté. Et c'est vrai que c'est à l'issue de l'accompagnement qu'on s'est dit, là, il n'y a plus le choix. Il faut passer en SCOP.
Mmh. Et est-ce qu'il y aura d'autres avantages ou alors c'est vraiment l'avantage principal?
Ben déjà, que les salariés s'approprient leur outil de travail, pour moi, c'est quand même un super avantage, quoi.
D'autres avantages? Moi, j'en veux pas. Peut-être. Après, ce serait difficile à expliquer précisément, mais c'est vrai que le fait d'être une association fiscalisée qui a une activité commerciale, on était un peu comme entre considérée. C'est-à-dire qu'on, c'est comme si on avait tous les droits et devoirs, enfin tous les, non, justement, tous les devoirs d'une asso et tous les devoirs d'une entreprise, sans avoir aucun droit presque de l'un et de l'autre. Là, au moins, on a un statut clair qui correspond à notre activité et qui va, alors après, comme c'est nouveau, on sait pas, mais qui va peut-être, voilà, nous simplifier des choses. Je sais pas trop encore. On verra, on reviendra.
Ouais. Vous reviendrez dans un an, ouais. On en reparlera. Alors justement, l'activité, elle va continuer un peu. Je sais, vous militez quand même pour pas mal de choses, notamment le bio et le local dans les cantines scolaires. Ici à Barthas, avec Christophe, on avait fait un gros plateau là-dessus. C'est parfois compliqué. Comment on met en place ce genre de choses?
Alors, à l'heure actuelle, Biojour ne s'occupe plus tellement de ça. C'est un peu du passé.
D'accord.
À l'époque, donc c'était plutôt en 2011-2012, voilà, donc ça remonte à pas mal de temps. On s'était associé et fédéré avec différents acteurs du terrain. Il y avait le Pays Gorge Cévennes, il y avait une petite asso qui s'appelait les Corollés, Biojour et peut-être une autre, je me rappelle plus. Autour d'une asso qu'on avait appelée le Biocal. Et on avait obtenu un financement européen pour travailler, démarcher les cantines et essayer d'organiser autour du réseau de producteurs existant autour de Biojour des livraisons à la cantine. Mais c'était assez complexe parce que à l'époque, effectivement, le réseau de producteurs s'appuyait sur une multitude de petits producteurs qui n'avaient pas beaucoup en quantité et qui ne pouvaient pas forcément livrer ce qu'ils avaient promis avec les aléas climatiques, etc. Donc c'était aussi complexe pour les cantines de s'appuyer là-dessus. Donc il y en a quelques-unes qui ont suivi et ça dépend beaucoup de la volonté du cuisinier en fait. Et donc voilà, il y avait quelques cuisiniers très motivés, très volontaires qui avaient pris le train en marche et qui avaient essayé de faire des choses. À l'heure actuelle... Là, c'est, enfin, je peux pas dire où ça en est exactement. En fait, le Biojour a un peu lâché ce volet-là. Là.
Après, Magali, toi, tu continues quand même à être en lien avec des cantines.
Il y a une école qui travaille avec nous, c'est l'école du Pont de Montvert, en fait. Mais elle ne se fournit pas en produits frais chez nous. Elle, c'est seulement du produit sec, mais ça fait quelques années maintenant qu'elle vient acheter des denrées à Biojour, oui. Et c'est bien.
Ouais, c'est clair. Alors tout à l'heure, Marilyn, pour rigoler, quand on a fait les tests micro, tu lisais la charte de Radio Barthas qui est juste à côté de toi. Justement, vous, votre charte et les valeurs que vous défendez, c'est quoi? Dans les grandes lignes.
Le soutien à, ce qui nous a porté au début, en tout cas, c'est le fait de développer et de promouvoir une agriculture respectueuse de l'environnement. Après, voilà, par le biais du bio, par le biais de l'environnement et de ses acteurs. Donc par le biais du local, par le biais du fait de rencontrer les gens qui produisent un maximum. Alors après, maintenant, on est devenu. Et puis après, il y a nos valeurs communes à nous, c'est-à-dire essayer de travailler ensemble. C'est comme un petit laboratoire d'expérience. Biojour, on a l'impression des fois, alors on n'est pas parfait, loin de là. Des fois, on merdouille. Des fois, on a des victoires et on travaille bien, mais voilà, on essaye quand même toujours d'être à l'écoute quand même des demandes de chacun, de prendre des décisions. C'est pour ça que c'est lent des fois, parce qu'on essaye de prendre des décisions ensemble. On essaye d'inclure même les nouveaux arrivants petit à petit dans un travail qui peut être intéressant, parce que tenir une boutique, c'est pas forcément toujours passionnant. En vrai, on a quand même toujours essayé de se partager les tâches qui sont les plus, on va dire, les plus stimulantes, et pour que chacun ait un intérêt à rester et à travailler à Biojour, en fait, qu'il n'y ait pas que une personne qui détienne toutes les tâches et que ce soit voilà un peu dispatché, qu'il n'y ait pas. Alors le fait de passer en scope, c'est vrai que des fois, comme on est quatre à mener le démarrage. On était 5 CDI, mais la cinquième personne a refusé de participer à l'aventure de la scope, quoi. Donc, ça reste juste salarié. Mais voilà, l'intérêt, c'est vraiment qu'on arrive tous à prendre plaisir, à travailler, à s'investir, et puis à prendre plaisir à faire progresser le alors pas faire progresser c'est pas en chiffre d'affaires mais à faire progresser notre manière de travailler pour être ensemble et pour bien travailler ensemble. C'est un peu fou.
Non, moi, j'ai, en tout cas, j'ai okay. tout compris. Il n'y a pas de souci. Alors, la question que je pose à chaque fois, voilà, certains pensent à tort ou à raison que consommer bio, c'est plus cher. Qu'est-ce que vous leur répondez?
Bah, moi, je peux donner juste un exemple bête. Entre, on dit souvent aussi qu'entre la grande surface et les magasins bio, il y a une différence énorme et je constate, moi, que des fois, non, clairement pas. Et je pense qu'on a malheureusement une mauvaise image quoi du bio. Après c'est clair que on pourra pas faire concurrence avec de la grosse distribution avec les légumes et tout ça, mais quand même moi j'ai remarqué que sur des produits on était même moins cher que du conventionnel. Enfin j'ai remarqué des légumes, les carottes, elles sont plus chères qu'à Biojour quoi. Ça me paraît dingue.
Je voulais dire aussi enfin l'agriculture conventionnelle est énormément subventionnée. Beaucoup oui, plus que clair. Le bio. Donc ça date je sais pas des années 60 ou même après-guerre où il a fallu faire baisser le prix du panier de la ménagère. C'était vraiment une politique mais ça s'appelait comme ça.
Ouais, c'est fou.
Et c'était voilà pour que les gens aient accès à la nourriture simplement hein, même après-guerre etc. Et c'est une politique qui est restée constante au fil des années. Et les producteurs bio sont en général sur des petites surfaces. Ici, en Lozère, en Cévennes, c'est même des petites surfaces qui sont pas mécanisables. Donc voilà, il y a plus de travail pour une productivité moindre. Donc forcément, bah, le coût de revient il est plus élevé. Et on a aussi le problème des transports ici, où voilà, ne serait-ce qu'un producteur qui habite au Collet d'Aise, eh ben un aller-retour, ça lui fait 60 ou 65 kilomètres pour venir livrer quelques légumes. Donc effectivement, le bio est plus cher. Après, faut voir en termes de d'impact environnemental. Si on calculait tous les coûts et réels, le coût réel de la production conventionnelle, on se rendrait compte qu'au final, c'est à peu près le même prix, et sauf que l'État ou l'Europe paye une grosse partie du coût de revient de la production conventionnelle.
Tant qu'on se rend compte qu'il faut rémunérer les producteurs à leur juste valeur. Marine, tu voulais ajouter quelque chose?
Non, mais c'est parfait.
C'est parfait. Alors, pour finir, le 22 mai prochain, il y a un atelier sur les perturbateurs endocriniens dans l'alimentation. Ça se passera à Biojour. Ce sera en partenariat avec le Réel CPIE 48. J'espère que je vous fais pas tomber des nues. Enfin, en tout cas, moi, c'est un mail que j'ai eu. Je vais peut-être couper la question. Du coup.
C'est qui? En fait, c'est Sophie Le Monnier qui est venue nous voir, en fait, mais on n'avait pas encore décidé complètement la date.
Ah, ok. C'est la date que j'ai eue, voilà.
Alors, du coup, Sophie, si tu nous écoutes, je t'invite vivement à venir nous voir pour qu'on puisse effectivement avertir tous les adhérents de Biojour et les autres pour qu'on puisse les avertir que la date est posée ou pas.
Voilà, bah, je vais la laisser finalement. Comme ça, le message est passé.
En tout cas, je tiens à signaler que effectivement, nous encourageons les personnes comme Sophie, enfin il y en a une d'autres avant elle en fait, de venir proposer des petits ateliers ou des mini conférences comme cela, surtout ce qui touche l'être humain et le côté environnemental et l'alimentation, etc. Parce que le Biojour est pour le moment une association et toujours, et je pense qu'en Scope ça continuera en fait, de pouvoir accueillir des intervenants pour pouvoir parler de sujets aussi importants et intéressants que celui-là.
Biojour passe en Scope, et la bonne nouvelle c'est qu'à Mende aussi, magasin bio passe en Scope aussi, et voilà, quand les travailleurs récupèrent leur outil de travail, c'est quand même que des bonnes nouvelles. Merci beaucoup à toutes les quatre d'être venues nous en parler.
Merci.
Je vous rappelle, auditeurs, auditrices, que c'est Avenue Jean Monestier, et puis à très bientôt et bonne continuation à vous.
Salut.
Merci.
Manu Evenot a quitté le groupe Trio, et au vu du dernier morceau, c'est peut-être pas une mauvaise décision. En tout cas, selon mon humble avis, c'était sans doute le meilleur des musiciens. Il a quitté Trio parce qu'il veut aller vers d'autres, de nouveaux horizons musicaux, et ça déchire. Dans le morceau qu'on va écouter, il est à la guitare. La chanteuse s'appelle Dene Isebere. La chanson s'appelle Imantoun. On écoute ça tout de suite.
Adema, Imatun Kanuba, Imatune. Imatun Kanuba, Imatune. Genuba, ne belle fée. Kanuba, ne belle fée. Genuba, ne belle fée. Kanuba, ne belle fée. Ni le conte camina.
La douceur de la voix de Déné Isébéré, à la guitare Manu Evno, Corto qui me disait hors antenne de vous mettre la dernière chanson de trio pour comparer. Je ne vous ferai pas ça, auditeur, auditrice. Vous êtes bien sûr Bartas. Voilà, il est 9h08, un peu moins. En juillet 2019, à Vébron, Cléo avait suivi des cours de self-défense avec Monique Vénère, qui a 83 ans, grande figure du judo et de l'aïkido. Un petit retour sur ce stage et sur ce personnage qu'est Monique. C'était Cléo qui avait fait ce reportage. On réécoute ça tout de suite.
Vendredi matin, 8h. Cinquième cours de self-défense. On a des bleus un peu partout, des courbatures. Sept femmes de 12 à 60 ans. Et Monique. Elle est assise face à nous. Je l'ai rencontrée il y a à peine une semaine. Je l'avais croisée quelques fois dans Vébron faisant ses courses à l'épicerie. Et comment aurais-je pu imaginer ? Première femme occidentale à avoir obtenu son troisième dan de judo. Motocycliste de la mort. C'est aussi elle la première qui a développé l'aïkido hors du Japon. Elle a affronté le champion de lutte libre et l'a battu à plate couture. Créé des centaines de clubs de judo, partout dans le monde, et j'en passe. Maintenant, Monique a 83 ans. Et depuis sa chaise, avec trois doigts, elle nous met à terre. Elle nous a offert le plaisir de ses quelques cours et cette interview. Merci Monique.
J'ai des courbatures
dans le dos et dans le cou.
un échauffement. Qui fait le dirige échauffement?
Alors.
Allez,
on court.
Volontaire.
Allez,
courez en levant les genoux.
Levant les genoux.
Alors, c'est un cours de self-défense que j'ai créé à base de plusieurs techniques, karaté, judo, aikido, etc. Différentes luttes. On n'avait pas de tapis, donc on a fait ça sur le sol de l'école. Et puis, j'ai trouvé une bande de jeunes là qui n'avaient pas peur et on s'est tout de suite amusé à taper dans des sacs de cailloux pour se faire des bons atémis.
J'aimerais mieux que tu enlèves.
Oh putain!
Il n'y a plus de paille là-dedans.
Oui, il n'y a plus de paille, il y a que des graffitis.
Oui, c'est bon. Expire.
Il y a la poussière qui sort là.
On enlève tes boucles d'oreilles parce que vous êtes les faire arracher.
Ah ouais.
Suivant.
Ah, tu t'es fait saigner.
Alors, il y avait un problème, c'est que par les fenêtres de la salle de l'école, on voyait les garçons, les hommes qui regardaient, qui essayaient de piquer les techniques.
Tenez, il y a un monsieur là, vous pouvez lui couper le cou. Allez, imaginez que vous lui coupez le cou. Allez, regardez-le et visez sa tête.
Non.
Visez sa tête.
Non. Est-ce que t'es d'accord?
Mais non, mais vous pouvez pas l'atteindre avec votre canne. Mais imaginez que vous êtes devant lui et que... Mais prends un objectif. Là, lui, il est là, tiens.
Il est
allez, tu lèves. Mais tu peux pas le taper. Alors, vas-y. Regarde-le, voilà. Latéral. 1, 2.
Donc, on a dû aborder le terrain qui n'était pas un terrain. Des kimonos qui n'existaient pas. Des âges différents.
Maman, je pourrais du coup attaquer Mila?
Non, t'attaques pas ça. Elle veut attaquer sa petite sœur.
La prochaine fois, tu viens avec ta petite sœur, je lui montrerai quelques petites choses.
Ah.
Alors, je voulais sortir un peu du close combat, et c'est surtout une self-défense féminine, parce qu'on a la chance, nous, la femme, d'être... On nous croit pas, on est des pauvres petites, etc. On a besoin d'être protégés, alors qu'on peut être très efficace dans la self-défense, parce qu'on se méfie pas. Et il veut vous embrasser gentiment, bon, bah, on peut lui tortiller les oreilles, etc. Mais si c'est une agression, on peut vraiment frapper. On va pas lui casser tous les doigts pour une main baladeuse, quand même.
Je m'appelle Christelle, je ne donne pas mon âge, non. J'habite à Vébron, et voilà, et j'ai fait des cours avec Madame Vénère. Alors le cours type, il n'y avait pas beaucoup d'échauffement. On s'échauffait le tranchant de la main dans un sac avec des graviers dedans, et on tapait dessus comme ça. Donc voilà, ça c'était un peu l'échauffement de la main, des mains. Et puis après, elle nous apprenait des coups. Enfin, en fait, c'était des prises à chaque fois différentes pour l'autodéfense. Donc moi, je me souviens vachement du coup du postier. En fait, il faut prendre son index et d'un coup très sec, taper le bout du nez de la personne qui s'approche un peu trop de toi. Et apparemment, ça fait pleurer. Hein.
J'ai rarement travaillé avec des femmes, vraiment très très rarement. Quand je pouvais pas faire autrement. Non, parce qu'en général, maintenant, ça va mieux, mais autrefois, les femmes, je trouvais que c'était trop mou.
Ouais, c'est vrai qu'un truc frustrant, c'est qu'à chaque fois qu'elle nous a appris quelque chose, on avait envie de l'essayer, mais pour de vrai, et là, on pouvait pas vraiment. Du coup, c'était un peu frustrant. Presque, on avait envie de se faire agresser.
Garder un self-control, ne pas avoir peur. Par exemple, moi ce que je dis quand quelqu'un veut vous, par exemple, prendre un collier, etc., faites le geste, attends, j'enlève ma montre. Il ne sait plus quoi faire, pourquoi enlève-t-elle sa montre? Il y a un petit doute, une petite seconde, ben on attaque. Quoi. On fait, C'est tout simple. Alors, on n'a pas eu le temps de faire, bien sûr, les armes, le revolver, etc. Ça, c'est... De toute façon, entre la technique et avoir la rapidité de le faire, etc., ce que j'ai dit à mes élèves, si vous courez vite, c'est encore le plus efficace.
Ouais, en tout cas, j'étais super contente d'aller au cours. Déjà, bon, se retrouver entre amis, c'était vraiment sympa, convivial. Et j'étais pressée de me lever le matin pour aller en cours. Et là, maintenant, avec le recul, ben, j'en garde un super souvenir, même si je ne me souviens pas de toutes les prises qu'on a pu apprendre. Mais ça donne envie de recommencer et de refaire une session l'année prochaine, si Monique revient.
Tu veux aller par terre? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux aller par terre? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux aller par terre? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux aller par terre? Qu'est-ce ta Monique? Qu'est-ce ta Monique? Qu'est-ce ta Monique? Qu'est-ce ta Monique? Qu'est-ce ta Monique?
J'étais en Angleterre pour apprendre l'anglais et je me suis retrouvé motocycliste de la mort dans un cirque autrichien. Et le partenaire qui me servait était jeune et beau, etc. Moi j'avais 17 ans, il faisait du judo, j'étais faire du judo. Et puis après, le professeur était encore plus beau. donc voilà. Et comme les femmes ne faisaient étaient vraiment inexistantes. Donc j'ai voulu aller au Japon parce que je ne pouvais pas passer j'ai passé les ceintures noires en Angleterre, les premiers et deuxièmes dan, mais en France pour aller plus loin, c'était pas possible. Donc j'ai décidé d'aller au Japon. J'étais très connu parce que j'avais un rendez-vous avec un journaliste à Istanbul, une femme seule, etc., etc. Donc on voulait m'interviewer et le chauffeur de taxi n'était pas tellement au courant et au lieu de m'amener sur la place de Tepebashi, qui est le centre même du vieux Istanbul, il m'a emmené vers les bois de Belgrade. Alors j'ai beau lui expliquer en français avec mes deux mots de turc que c'était pas le chemin. Donc je lui ai fait un étranglement arrière et je l'ai ramené. Quand je devais tourner à droite, je poussais avec la main droite ou avec la main gauche. Et évidemment, ça a été un succès énorme devant les journalistes quand on était arrivé. Donc ça fait la une de tous les journaux en Turquie. Et quand je suis arrivé en Cappadoce, parce que je partais au Japon, etc., il y a le maire qui, d'un seul coup, se lève, il a un fusil à pierre avec un entonnoir, il me le met sous la gorge et il me dit « Qu'est-ce que vous feriez là maintenant ?» Et bon, moi j'ai chassé le fusil et ça lui a fait sauter les dents de devant. Puis j'ai surtourné dans le village, 3-4 ans après peut-être, je sais plus exactement. Et dès qu'il m'a vu, il m'a fait il me montrait ses dents, c'était sa fierté d'avoir eu les dents cassées. Ça lui a coûté moins cher que d'aller chez le dentiste.
Tu vas pas rester contre le mur, t'écoles dans ton dos le mur, Monique. Qu'est-ce que tu veux faire si vraiment tu ne veux pas danser? Tu vas pas rester contre le mur, t'écoles dans ton dos le mur. Car j'entends tout le monde dire qu'est-ce que t'as, Monique? Qu'est-ce que t'as, Monique?
Et il y avait un maître, le maître Noke, qui est allé au Japon et maître Shiba, qui est le fondateur, ne l'a pas fait travailler pendant un an. Le Noke a lavé le kimono du maître et balayé le dojo. Et moi j'y suis allé, j'ai eu la chance de trouver le maître qui m'a immédiatement pris. C'était la première fois qu'il voyait une femme débarquer, etc. Et après, il m'a chargé de développer l'aïkido parce que pour aller au Japon, pour gagner ma vie, je faisais des démonstrations Et c'est comme ça que je me suis battu avec le champion du monde de lutte libre. Et dans chaque pays, je faisais un gala. Alors, j'avais pas de partenaire, bien sûr. Donc, les partenaires, c'était les journalistes. Les journalistes, ils venaient pour m'interviewer. Il fallait que j'ai un partenaire.
Je dis attention. Quoi? Hein? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu dois être dans le groove. Si tu veux que ton corps bouge.
Le jour où j'ai eu 80 ans, alors c'était la fin du monde. Tout le monde m'est tombé sur le dos. Enfin, tout le monde, j'entends l'administration, pas les amis. Les amis savent que je devais faire ceci, je devais faire cela, que je vivais tout seul, que c'était dangereux, qu'il valait mieux me mettre dans un EHPAD, etc., etc. Je les ai envoyés paître et je suis parti faire le tour du monde.
Voilà pour la rediffusion de ce reportage fait par Cléo. C'est la fin de cette matinale. On se retrouve lundi et au joie. On parlera de tout ce que j'adore, les feux d'artifice. Bisous Elodie. Bon courage pour tes journées. Et toi-même, tu sais pourquoi. Merci Corto.
De rien.
Merci à toutes et tous de nous suivre. On se quitte avec un super morceau, Boubacar Traoré. Le morceau, c'est Ona. Allez, bonne journée à toutes et tous. Profitez-en bien. À lundi. Ciao.
Thank you.
maloye e kana wasa sakau sa maloye.